C'est vrai qu'on a beaucoup de doutes avant de partir. Moi aussi, quand je prépare des voyages ou des aventures, bah, j'ai toujours des doutes, des questions, je me renseigne sur plein de trucs. Et puis finalement, quand on part, tout se simplifie. Ouais. On se rend compte que le truc qui nous faisait un peu peur, bah, finalement, ça se passe bien, quoi.
Bonjour, c'est Anne B. Tu es sur Storylifique, le podcast 100% outdoor. Ta mission ce jour, te faire du bien tout en faisant du bien à la planète. Comment ? Écoute des invités qui te parlent de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation. Donc si ce podcast te plaît, parle-en autour de toi, car plus il y a d'oreilles, plus on plante. C'est pas beau ça ? Toutes les explications sont sur storylifique.com et dans les notes de l'épisode, tu trouveras le lien pour le partager. Alors, je compte sur toi. Briègue Jaffraise est pris très jeune par le virus de l'aventure. Un jour, il tombe sur un livre qui va l'envoyer avec sa femme sur les routes pour un tour du monde de 2 ans à vélo. Comme tu le verras, l'aventure ne s'arrête pas là puisque son métier n'est pas banal et ses expés ne le sont pas plus. Petit conseil en tout genre pour aspirants aventuriers, que ce soit en mode micro-aventure ou expédition plus engagée, si tu as toujours rêvé de t'y mettre sans trop savoir pour recommencer, tu es au bon endroit. Un petit mot avant de plonger dans la discussion. Cet épisode reçoit le soutien d'AS Adventure. Cela fait sens pour moi de te les présenter car ils ont un service auquel je crois beaucoup, la location de matériel outdoor. Souvent, cela ne vaut pas vraiment la peine d'acheter tentes, sacs de couchage et matelas pour les utiliser une fois sur l'année et t'encombrer le reste du temps. Imagine la réduction de l'empreinte écologique si une tente est louée 10 fois sur la saison par rapport à 10 tentes achetées. Je ne suis pas la plus forte en maths, mais sauf erreur, on diminue son impact par 10 sans transpirer. En plus, tu peux louer de la très bonne qualité pour moins cher qu'un achat bas de gamme qui finit fissa à la poubelle. Donc, pour diminuer ton impact cet été, que tu baroudes en Alaska, entre les coquillages des Landes ou entre les podiums des festivals, le mot d'ordre est location. Le meilleur rapport qualité-prix pour toi et la planète. AS Adventure Rental est présent en Belgique, au Luxembourg, ainsi qu'en France à Reims, Nice et Bordeaux. Lien dans les notes. Adventure is everywhere. Bonjour Briègue Jaffraise.
Bonjour Anne B.
Eh bien, on va commencer par te présenter. Aujourd'hui, on va parler de micro-aventure, d'aventure avec quelqu'un qui s'est pas mal spécialisé dans la matière. On va parler de ton blog, évidemment. Besoin d'aventure, c'est même pas envie, c'est besoin. J'aime beaucoup. Donc, tu peux te présenter en 2 mots?
Oui, bah, je m'appelle Briègue Jaffraise, j'ai 43 ans. Au départ, je suis officier dans la marine marchande. Donc, j'ai navigué sur différents types de navires de commerce et de passagers. Depuis quelques années, je suis prof dans un lycée maritime, donc j'enseigne à des jeunes pour devenir marin. Et puis, à côté de ça, je suis passionné par l'aventure, le voyage nature. Et donc, il y a 5 ans, j'ai créé un blog qui s'appelle Besoin d'aventure. Je ne savais pas trop ce que j'allais en faire au départ, mais je voulais un peu me tourner sur ce domaine-là professionnellement. Et donc voilà, donc j'ai réalisé pas mal d'aventures et j'aime bien, alors c'est pas du tout pour me vanter, c'est un peu pour juste faire un peu de teasing, j'aime bien, je m'amuse à dire que j'ai vu le soleil se lever dans plus de 45 pays et sur les 6 continents. Donc ça résume un peu voilà, toutes les voyages et les aventures que j'ai fait jusqu'à présent.
Ouais, c'est effectivement un beau palmarès déjà. Pourquoi la marine marchande ? C'était déjà l'envie d'aller voir ailleurs ce qui s'y passait ou...
Ouais, c'était un métier de voyage. Moi, je suis breton, j'ai fait du bateau avec mes parents depuis tout petit. Je savais pas encore marcher que j'étais dans le voilier des parents. Et donc, la mer m'attirait, le voyage m'attirait beaucoup.
Tu habites à Saint-Malo aussi, c'est ça ?
Ouais, je suis à Saint-Malo, j'étais à Lorient avant.
À Lorient, oui, bon, bah, de toute façon, c'est ouais. Des destinations. Si on finit pas par un bateau, sait pas. Qu'on l'a fait exprès.
Et donc ouais, l'idée, voilà, la mer et le voyage, beaucoup de voyage. Un métier aussi qui permet d'avoir un rythme assez particulier, puisqu'on embarque souvent 2 mois, 3 mois, et puis après on a 2 ou 3 mois de libre. Donc ouais, voilà.
Ça a laissé le temps au blog de se développer, c'est ça ?
Le blog, c'est venu dans un deuxième temps.
D'accord.
J'étais pas mal attiré par tout ce qui était photo, vidéo. J'ai eu une période aussi à ce niveau-là. Et puis après, au bout de 10 ans de navigation, j'ai eu une fille et j'avais plus forcément envie de partir 2 mois d'affilée. Mmh. Donc du coup, je suis devenu prof de navigation dans un lycée maritime, ce qui me permettait d'être plus présent. mais d'avoir toujours la chance d'avoir pas mal de vacances puisque j'ai les vacances scolaires. Et donc de continuer mes voyages de manière un peu plus privée et personnelle, mais de continuer à voyager quand même, quoi.
Tout à fait. Et tu as navigué sur de superbes navires puisque tu as été sur le Belém, un bateau de 1896 en Belgique et 1896 en France. Mais c'est la même année. Donc c'était le dernier trois-mâts barque français que j'ai lu sur Wikipédia. Merci Wikipédia. Un des plus anciens trois-mâts en Europe.
Oui. Ouais, c'est un bateau qui a une histoire vraiment incroyable, qui a été créé pour les chocolateries Meunier à Nantes au départ, pour aller chercher du cacao aux Antilles. Et
la belle idée.
Et c'était une époque où c'était un des derniers voiliers, puisque la vapeur arrivait. Et c'est un navire qui a eu plusieurs vies, qui a eu plusieurs propriétaires, qui a failli sombrer plusieurs fois, mais qui a toujours eu une bonne étoile. Et donc, dans les années 1980 et quelques, il a été récupéré par quelqu'un qui l'a trouvé en Italie, dans une vasière en mauvais état. Il l'a ramené en France. C'est la Fondation Belém, donc la caisse d'épargne, qui l'a racheté, en fait, et qui le fait naviguer. Et c'est un bateau maintenant qui est un bateau, entre guillemets, école, dans le sens où c'est des croisières participatives. Donc les gens s'inscrivent, c'est ouvert aux jeunes. Moi, je sais plus, enfin, faut être accompagné si on est mineur, mais sinon, c'est, voilà, les jeunes.
De 7 à 77.
Voilà, de 7 à 77 ans. Et les gens viennent voir, en fait, comment c'était la navigation sur un navire comme ça. Donc, ils participent au quart, de jour, de nuit, ils participent aux manœuvres, ils ont des petits cours explicatifs sur la navigation en général, des cours de matelotage, savoir faire des nœuds, etc. Donc c'est un bateau qui marque beaucoup, que ce soit les marins professionnels qui travaillent à bord ou les stagiaires qui viennent.
Bah ouais, ça doit être une super expérience aussi. C'est marrant parce que 150 ans plus tard, on revient à aller chercher le cacao à la voile. Hein. Je ne sais plus, tu pourras peut-être me dire, qui le fait, mais il y a un voilier qui a remis ça en route.
Ouais, il y a Grand Sail.
Voilà.
Donc Grand Sail qui sont à Morlaix, qui font ça aux Antilles. Et puis il y a beaucoup de projets à voile. Alors soit des voiles classiques, mais des voiles modernes aussi rigides.
Ouais.
Moi j'ai un ami qui est sur un projet aussi comme ça. Enfin, il y a beaucoup de projets en ce moment. Ouais.
Ouais,
alors,
ouais,
c'est pas toujours du 100% voile, mais en tout cas, c'est un complément à la voile qui est pas négligeable, quoi.
Tout à fait, oui. Je voyais, on en reparlait aussi pour les gros navires cargo, pour essayer effectivement de consommer moins de carburant. C'est des très chouettes projets. Mais donc aujourd'hui, on va parler de tes aventures. Alors, t'as fait beaucoup d'aventures à pied, à vélo, en kayak. Et ma petite fille qui préparait l'épisode avec moi, comme toujours, t'as vu randonner en raquette et te pose la question suivante. Attends, je vais prendre sa question.
Pourquoi t'as voulu voyager dans la neige?
Voilà, elle dit, mais pourquoi est-ce qu'on s'embête à aller comme ça Quelle drôle d'idée. Alors, c'est quoi les plaisirs de marcher dans la neige en raquette?
Les plaisirs de la raquette, c'est de découvrir la montagne en plein hiver, quand tout est blanc, immaculé de neige. Il y a aussi beaucoup moins de personnes en hiver, on est assez seul, donc c'est très sauvage. Ouais, c'est ça, c'est la découverte du milieu montagnard en plein hiver. C'est assez spécial par rapport à l'été. Et puis c'est aussi un peu se dépasser quand on part à raquette en bivouac qui fait moins 10 la nuit. C'est des ambiances particulières et puis il faut faire attention à tous les petits détails pour pas avoir froid, pour que tout se passe bien, etc. Ça permet de se sentir vivre aussi, quoi. Enfin, toutes les aventures en général, je trouve, et les voyages permettent de se sentir vivre parce qu'il faut toujours être un petit peu sur le qui-vive par rapport à quand on est chez nous et qu'on est dans notre confort, quoi.
Ouais, tout à fait. Chouette. Et donc, on va commencer à parler de tes expés. Je vais peut-être commencer aussi par la question de mon autre question de mon autre petite fille. Qui vous regardez aussi, évidemment, il y a plusieurs petits extraits, on peut te trouver sur YouTube, on va parler de ta chaîne YouTube aussi. Et donc, elle avait vu cette neige et ça lui a fait poser cette question-ci.
Est-ce que tu as rencontré des aurores boréales?
Oui, j'ai déjà vu des aurores boréales. La première, c'était une aurore boréale très très légère, toute blanche, sur un navire de croisière au Canada, au Québec même. C'était en fin d'été. Et ensuite, je suis parti sur un navire pour faire du ski de randonnée. Donc là, c'était au nord de la Norvège. Là, j'y allais aussi pour faire un film pour l'entreprise du navire, en fait, pour voilà, présenter leur activité ski de randonnée en Norvège. Donc ça, c'était au mois de mars, début mars. Donc il y avait à peu près autant de jours que de nuits. Et on a eu la chance d'avoir au moins 2 ou 3 nuits sur une semaine où on a eu des magnifiques aurores boréales vertes fluo qui bougeaient dans tous les sens. C'est assez fascinant. Il y a quand même un petit truc qu'il faut savoir, c'est que les aurores boréales sur les vidéos ou sur les photos sont toujours beaucoup plus impressionnantes que dans la réalité. Le vert est toujours beaucoup plus intense, etc., avec les poses longues sur les photos, par exemple. Mais ça reste dans la réalité quelque chose de très très beau. Mais il faut juste savoir que c'est un peu moins puissant que sur les photos, voilà, pour pas être déçu quand on le voit en vrai, quoi.
D'accord. On va parler maintenant d'un super truc que tu as fait ces 2 ans à vélo, un tour du monde. C'est absolument génial, ça. Comment est venue l'idée?
Toujours la grande envie de voyage. L'idée, elle est venue que je me posais la question quand j'étais, je pense, au collège, fin de collège, quatrième, troisième, de quels moyens j'avais envie d'utiliser pour voyager, en fonction de mes envies de voyage. J'ai lu pas mal de bouquins d'aventure, des bouquins en stop, à pied, etc. Et puis un jour, je pense que j'étais en troisième, j'ai lu Le Tour du monde à vélo de Claude et Françoise Hervé, un bouquin vraiment mythique pour moi en tout cas. C'est des gens qui sont partis, voilà, qui sont partis dans les années 80. Ils devaient partir 2-3 ans, puis finalement ils sont partis 15 ans. Ils sont revenus avec une fille qui avait 7 ans. Donc tout ça à vélo. Et le bouquin est génial. Leur état d'esprit m'a beaucoup plu. Ils étaient beaucoup dans le voyage pour la rencontre. Quand j'ai refermé ce bouquin-là, je me suis dit, voilà, c'est vraiment de cette manière-là que j'ai envie de voyager. Donc j'ai eu ce rêve qui est resté, je me suis beaucoup renseigné, j'ai fait quelques petits voyages à vélo quand j'étais voilà, au lycée, etc. Et puis après, j'ai rencontré ma femme, on était en études, et je lui ai parlé de voyage, de vélo, ça lui paraissait un peu impossible de faire ça à vélo, puis je lui ai donné ce bouquin-là, je lui ai dit, bah, lis le bouquin, et puis après, on en reparle, quoi. Et puis bah, pareil, elle a refermé le bouquin, elle m'a dit, ouais, c'est trop bien, c'est trop bien.
Faut vivre ça.
Et faut vivre ça. Et puis c'est passé un ou 2 ans, puis on a réussi à se mettre d'accord sur l'itinéraire, le temps qu'on allait mettre à le faire, etc. Et puis à partir de ce moment-là, on s'est dit, bon bah ok, on a l'itinéraire, on est d'accord sur ça, on réfléchit à combien de temps il nous faut pour mettre de l'argent de côté. Donc il fallait 3 ans à partir de ce moment-là. Donc on s'est dit, bon bah ok, 15 mars 2005, on donne le premier coup de pédale. Et voilà, donc on a mis 3 ans à préparer et surtout à mettre de l'argent de côté. Et puis on est parti à la date prévue.
C'est quoi le budget qu'il faut pour ce genre d'aventure? Bon, là, c'était à deux, hein, mais...
Le budget, c'était 15 000 euros chacun, tout compris, avec le matériel, les billets d'avion pour certains passages, les assurances, la nourriture, etc., etc. Bon, après, c'était il y a quelques temps, hein, donc on le referait maintenant. Le budget serait peut-être 50% supérieur,
Mais pas le
mais
budget
sur deux
carburant.
ans, voilà. Mais sur 2 ans, ça reste des budgets quand même, certes, qu'il faut réussir à mettre de côté, mais qui sont très limités par rapport à quand on part voyager 1 mois et que le billet d'avion ou le train ou le transport,
Oui, c'est
voilà,
ça. Plus
est assez
hôtel,
important en
plus.
général, quoi.
Et donc, vous, c'était dormir en tente? C'était comment alors pour le...
Ouais, on était vraiment autonome. On avait notre tente, notre petite maison. On avait la nourriture qu'on achetait, bah, quasiment quotidiennement, parce qu'à vélo, on peut faire des distances assez grandes pour trouver un village et trouver à manger, sauf dans certaines parties où on prenait pour 2-3 jours. On avait l'eau pour la journée et l'idée, c'était le soir de demander un endroit où on pouvait mettre la tente aux gens du pays, dans l'idée de provoquer des rencontres, en fait. Donc, quand on connaissait pas la langue, on avait un petit papier qui était traduit dans la langue du pays. et qui disait « Bonjour, on fait un tour du monde à vélo, on cherche un endroit pour poser notre tente, est-ce que vous pouvez nous aider ?» Et donc après, les gens nous répondaient ce qu'ils voulaient. Ils nous disaient « Bah non, je sais pas », ou alors « À 2 km, il y a un truc », ou « Il y a le champ à côté », ou « Il y a mon jardin », ou « Ah bah non, il fait pas beau, moi j'ai une chambre chez moi, venez à la maison ». Et dans tous les cas, on était souvent près d'une maison, par souci aussi de sécurité, et on avait forcément des rencontres, hein, on cherchait pas forcément à aller chez les gens, mais le fait d'être à côté des maisons, bah, on avait forcément de l'interaction avec eux. Et le seul truc qu'on demandait, c'était ça, c'était un carré d'herbe et de l'eau, quoi.
Ah, c'est génial. Et qu'est-ce qu'il y a eu dans les belles rencontres, hein, que vous avez faites? Quand tu y repenses, quels sont les premiers visages qui te reviennent à l'esprit?
Bah, en France, on a été très bien accueillis au départ comme au retour. Et on a été notamment accueillis chez un gars qui s'appelle Johan, qui a ouvert sa porte un peu surpris en fait de nous voir, qui comprenait pas bien ce qu'on faisait, etc. Mais qui nous a accueillis de manière très simple, et il y avait une chambre chez eux qui était libre parce qu'une des filles était pas là, etc. Et c'est assez marrant cette rencontre parce que c'était dans la Creuse et ça correspondait à peu près à notre itinéraire de retour. On est parti de France, hein, on est revenu en France. Et donc du coup, 2 ans après, on leur a fait la surprise de retaper à leur porte un soir comme ça, au hasard. On ne savait même pas s'ils allaient être là. Et ils étaient là et bah, pareil, on les a surpris, quoi. Et on a un peu commencé le voyage chez eux dans le sens voyage-rencontre. C'était la première rencontre assez forte. Et on l'a un petit peu terminé chez eux 2 ans après. Donc voilà, c'était assez marrant, on a gardé contact après, pendant pas mal de temps. Après, à l'étranger, il y a eu des dizaines, des centaines de rencontres, mais dans les rencontres, c'est une rencontre assez classique, on va dire, mais à Pékin, on cherchait un endroit pour pouvoir se faire livrer un colis, pour avoir des pneus neufs, pour avoir des choses comme ça. On avait besoin de quelques endroits comme ça sur 2 ans pour se faire livrer des choses. Et la mère de ma femme a rencontré une personne dans une librairie en Normandie. Elle l'a entendu parler de Pékin et elle lui a un peu sauté dessus en lui disant « Bah écoutez, j'ai ma fille qui part en tour du monde à vélo. Si vous habitez Pékin, est-ce que vous accepteriez qu'on vous livre un colis chez eux? Ils ont juste à le récupérer et puis ça s'arrête là et juste un petit service, quoi. » Et la dame lui dit « Bah oui, pas de problème, il n'y a aucun souci », elle lui donne son adresse, etc. Et puis juste avant d'arriver à Pékin, on les recontacte pour leur dire qu'on arrive. Et là, il nous dit « Ah mais oui, mais vous venez à la maison, on vous accueille, vous nous appelez quand vous êtes à Pékin, le chauffeur va venir vous chercher, etc. etc. » Et donc là, une voiture vient nous chercher en plein Pékin. Voilà, on arrive chez eux avec les vélos. Et donc c'était des Français expatriés en Chine, dans une résidence privée, avec la piscine, le machin, enfin voilà, du haut standing. Et en fait, ils nous ont accueillis comme si on était leurs enfants pendant plus d'une semaine.
Ah.
Alors qu'on s'y attendait pas, quoi. Leurs enfants avaient à peu près notre âge, ils étaient en France à ce moment-là.
Mm-hmm.
Et donc du coup, je pense que ça leur faisait plaisir aussi de nous accueillir. Et ils nous ont baladés partout, ils nous ont fait tout visiter Pékin, enfin vraiment tout ce qu'il y a de plus dingue à voir là-bas et qui sont pas forcément connus.
C'est quoi les trucs les plus dingues et qui sont pas forcément connus?
On a été dans des salons de massage, on a été dans des quartiers qu'on n'aurait pas fait tout seul, qu'on n'aurait pas découvert tout seul, quoi. Des petites adresses un peu que les gens du coin connaissent, quoi. Et puis voilà, ils ont organisé une fête de rentrée parce que c'était en septembre. Et puis ils ont dit à leurs amis, bah, amenez rien. Par contre, on fait une cagnotte pour les voyageurs. Alors voilà, on n'avait pas besoin de ça en plus. Mais enfin, c'était vraiment
assez magnifique, fort comme accueil,
assez impressionnant.
Génial. Et dans des petits villages, que ce soit en Amérique du Sud ou en Asie. Ça suscite, la conversation n'était pas toujours facile, mais ça avait dû avoir des chouettes choses aussi.
Ouais, c'est vrai que là, bah, dans beaucoup de pays, on parlait pas la langue, donc on achetait un petit dictionnaire à l'entrée du pays pour réussir à communiquer un minimum. En Biélorussie, on a fait une belle, Belle rencontre. On était souvent donc dans la campagne, dans des tout petits villages. Et un soir, donc, on a montré notre mot pour trouver un endroit pour mettre la tente. Et puis, donc, ils nous ont dit OK, il y avait de la place derrière la maison et les hangars, etc. Et puis, on a commencé à mettre la tente. Et puis, au final, il y a une des personnes qui est venue nous voir en disant non, mais mettez pas la tente, il y a la maison. Donc, on a remballé la tente. On est arrivé dans la maison. Et alors c'est assez marrant parce qu'on pensait que ça allait être une soirée assez classique, dormir dans la tente à côté d'une maison, avoir un peu d'interaction avec les gens, et puis voilà quoi. Et puis au final on s'est retrouvé dans la maison, et puis ils nous ont dit, vous voulez le banya, le banya. Alors le banya c'est le sauna russe qu'ils ont tous, hein, même dans les petites maisons en campagne. Et donc voilà, laver le banya, ok, bon bah on va se laver. Et donc on a compris que moi j'y allais d'abord avec le père. Donc là, on rentre dans une pièce toute sombre où il fait, je sais pas moi, 60 degrés. Enfin, c'est hyper hyper chaud. Il y a une espèce de vieux chaudron qui fume avec une espèce de planche sur laquelle on peut se coucher. Tout est en bois un peu sombre. Donc là, je rentre là-dedans, je prie que tout se passe bien en gros. Et là, le gars me dit de m'allonger sur la planche en bois. Il balance de l'eau sur le chaudron pour faire énormément de vapeur dans la pièce. Et là, il prend pas une branche, mais un amas de branches de bouleau. Et là, il commence à me taper, à me fouetter sur le dos et sur les jambes et partout, et assez fort. Et donc, bah, je me laisse faire, hein. Je vois que c'est bienveillant, mais c'est assez spécial, chiant. Voilà, on est un métier tout nu là-dedans, tous les deux. Et donc voilà, tout se passe bien. Tout se passe bien, je ressors vivant. Et ensuite, bah, c'est au tour d'Élise, ma femme, d'y aller avec les femmes. Donc là, pareil, elle se lave, elle se frappe avec le bouleau, etc. On ressort de là, on boit une bière fraîche. On nous demande si on veut y retourner. Donc on leur dit non, c'est bon, ça va,
C'est bon là.
c'était pas mal, c'est une compte.
J'ai encore des
Et
marques.
voilà. Et puis la soirée continue autour d'un repas avec beaucoup de vodka, beaucoup
Ah bah
de
tiens.
choses typiques à manger chez eux, vraiment des produits de la campagne, de la ferme. Ils avaient le potager, etc. Et puis les verres de vodka se suivent les uns après les autres. Alors c'est des petits verres, mais il y en a beaucoup. Et c'est compliqué de refuser, c'est même mal poli de refuser. Et voilà, donc la fin de soirée est difficile à raconter. Mais
Je sais plus. On s'est
voilà,
réveillé dans la neige.
on se retrouve le lendemain bah, chez eux, parce qu'ils n'étaient
Ouais.
pas très frais non plus le lendemain. On est resté une journée entière chez eux. Et puis voilà, et puis le lendemain, eux devaient partir. Alors, on n'a pas bien compris s'ils partaient pour un mariage ou pour je sais pas quoi, un truc de famille. On n'a pas réussi à tout comprendre.
Ben, vous
Mais
l'avez
voilà,
échappé
on
belle
a.
parce qu'à ce rythme-là, vous resteriez une semaine, hein, s'il fallait
C'est
cuver pendant
ça,
la
ça aurait
journée et
pu.
que le soir ça recommence.
Ouais. C'est vrai que les pays de l'Est et la Biélorussie, Russie, c'était assez dur à ce niveau-là. Mais on a fait, mais en même temps des rencontres exceptionnelles.
Bah oui, c'est clair, c'est clair. C'était quoi votre itinéraire exactement? Enfin, je ne saurais
Alors on
peut-être
est
pas
parti
citer
de
tous les sites.
France, Bretagne. Dans les grandes lignes, on a fait
Oui.
Bretagne, Moscou. Ensuite, on a pris le Transsibérien pour aller jusqu'au lac Baïkal, qui est à l'est de la Russie. Là, on a continué Mongolie-Chine, Vietnam, Laos, Thaïlande. Après, on a été en Nouvelle-Zélande. Après, Tahiti, île de Pâques, arrivé à Lima. Et de Lima, on a traversé l'Amérique du Sud, de Lima jusqu'à Rio, en passant par les Andes. Et de Rio, on a pris un avion pour Dakar. Et de Dakar, on est remonté Sénégal, Mauritanie, Maroc, Espagne, France.
Wow, bel itinéraire, hein. Vraiment bien toucher les différents continents, bon pas l'Amérique du Nord, mais enfin c'est déjà plus occidental, c'était peut-être pas le but, c'était découvrir autre chose.
Ouais, et puis fallait choisir, quoi.
Ouais, bah oui, c'est ça. On fait le tour du monde, mais c'est pas tous les pays non plus. Et donc tu as la Nouvelle-Zélande, tu avais beaucoup aimé, je pense, pour les paysages.
Ouais, les paysages en Nouvelle-Zélande sont assez incroyables. Alors, c'est des pays où les rencontres étaient moins fortes. Alors, ça s'explique aussi parce qu'on était pendant la saison assez touristique. Il y avait pas mal de vélos, etc., qui faisaient le tour de l'île un peu comme nous.
Vous avez fait une île ou les deux?
On a fait l'île du Sud,
L'île du Sud.
uniquement l'île du Sud. On avait un ami qui habitait à Christchurch, donc on s'est posé aussi un petit peu là-bas. Et ouais, c'est des paysages vraiment très beaux et puis très grand, avec peu de monde en fait, hein, donc c'est vite très, très nature. Il y a quelques endroits, ouais, notamment le Mont Cook et le lac Tekapo, qui sont des paysages vraiment de dingue qu'on ne retrouve pas à beaucoup d'endroits, je pense.
Ouais, quand même le Tongariro aussi. Ouais, aller découvrir des scènes où a été tourné le Seigneur des Anneaux. Ouais. Il a pas mal été tourné là-bas, mais c'est pas pour ça qu'on y allait du tout, mais c'était, ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Et en Asie, ça devait être quand même le Laos, c'est déjà un petit peu moins couru, par exemple. Ça se passait comment?
Ouais, le Laos, c'est peut-être moins connu. Alors, on a fait que le sud du Laos, qui est beaucoup plus plat que le nord. Le Laos, moi, j'ai le souvenir de la terre rouge, des pistes de terre rouge et des enfants qui nous disent Sabaidi, qui veut dire bonjour, pendant toute la journée, en fait. Dès qu'on croisait des villages, des machins, c'était des cris de Sabaidi, Sabaidi, Sabaidi. Voilà, avec quelques endroits très, très chouettes aussi, des plateaux avec du café, des cascades, voilà, des petites... Je me souviens de petites cases, de petits villages au bord des cascades. Un pays très reposant, en fait. Après le Vietnam, qui est très agité, le Laos était très reposant, un peu moins de monde aussi. C'est pas un pays très, très peuplé par rapport aux autres pays à côté. Mmh. Et ouais, très reposant, des gens calmes, des gens souriants. On a aimé ce côté relax du Laos. Ouais.
C'était quoi un des indispensables pour un voyage à vélo comme ça, dans votre équipement?
L'indispensable, c'est le rétroviseur.
Le rétroviseur?
C'est le truc un peu bête, mais moi, je préfère avoir un rétroviseur qu'un casque. Mmh. Alors, je dis pas qu'il faut pas porter de casque, hein, c'est très bien de porter un casque. J'en portais pas personnellement. Mais le rétroviseur, vraiment, c'était l'équipement indispensable de sécurité pour voir ce qui arrivait derrière quand on était sur des routes, des grosses routes, et que ça roulait vite, et que dans certains pays, les voitures font pas forcément gaffe au vélo. Mais ça peut être même la même chose en France, hein, sur des grosses routes. Il y a des voitures qui peuvent passer assez proches.
J'ai demandé un rétroviseur sur mon vélo, tout le monde m'a dit « Pourquoi tu fais ça ?» Et tu vas avoir dit « Ah, c'était pas bête le coup de ton rétroviseur, je crois que je vais en mettre un aussi
!» Ouais, non, c'est primordial. Je repense à la route M1 pour arriver sur Moscou. On n'avait pas le choix, il n'y avait pas d'autre route, sinon c'était vraiment des pistes de sable, etc. On était obligé de prendre cette route-là. On avait des camions, donc c'est une route, c'est pas une voie express, hein, c'est une route à double voie, enfin à voie qui se... classique, quoi. Et on avait des camions qui déboulaient à 100 km/h, il y avait quasiment que des camions, et sur le côté on avait un bas-côté quand même, heureusement, mais en gravier, et en gros à chaque fois qu'il y a un camion qui passait, il fallait qu'on dégage sur le côté, quoi, parce que eux ne bougeaient pas, ils n'avaient pas forcément la place de bouger parce qu'en face il y avait d'autres camions, ou alors des fois il y avait des doubles voies pour doubler, il y avait un camion qui les doublait en même temps, c'était pas forcément de leur faute, ils étaient à 100 km/h, ils pouvaient rien faire d'autre que, voilà, de continuer, quoi. Et bah ça, on l'a tout fait au rétro, quoi. On avait le rétro, camion, boum, on partait sur le côté. Et... voilà, c'était pas la partie la plus agréable, mais le rétro, c'est un petit truc, ça vaut pas très cher, mais c'est hyper important.
Tu m'avais dit en prépa que préparer un voyage comme ça, bon, ça vous a pris 3 ans, c'est surtout pour mettre de l'argent de côté, mais ça t'a pas paru très difficile finalement?
Non, ça m'a pas paru difficile parce que j'avais une telle motivation pour faire ce voyage que toutes les difficultés, je pense que je suis passé au-dessus, que ce soit pendant la préparation ou pendant le voyage. Voilà, quand on me demande si c'était dur, quand on me dit que j'avais eu du courage pour faire ça, j'ai pas eu l'impression d'avoir du courage ou que c'était spécialement difficile. Bon, on a eu 3 ans aussi pour se préparer, donc ça nous a donné du temps. Mais on a pris élément par élément, et puis voilà, chaque jour on s'occupait de telle ou telle chose dans la préparation. Puis après, dans la difficulté du voyage, bah c'est pareil, ça paraît toujours incroyable de faire un tour du monde à vélo de 2 ans, mais si on découpe, c'est comme dans tous les projets en fait, si on redécoupe ça par petits morceaux, bah c'est un petit morceau chaque jour, et nous en fait on a fait que des petits morceaux de... On faisait entre 40 et 80 km par jour. Une fois entraîné, tout le monde est capable, sauf si on a des limitations physiques, mais la plupart des gens sont capables de faire 50-60 km par jour s'ils sont un petit peu entraînés. Et en fait, ben, on faisait que répéter ça régulièrement. C'est que des petits morceaux de... Voilà, quand on est capable de partir une semaine à vélo et de faire 50 km par jour, on est capable de partir plus longtemps. Après, c'est l'envie et la motivation qui font qu'on y arrive, quoi, parce que c'est ça qui, c'est la tête qui nous porte, quoi.
Ah ouais, tout à fait. Et puis, comme disait Mathieu Tordeur, qui recitait, je crois que c'est Alexandra David-Neil qui avait dit qu'une fois en route, une fois en chemin, tout se simplifie.
Oui, on a beaucoup, c'est vrai qu'on a beaucoup de doutes avant de partir. Moi aussi, quand je prépare des voyages ou des aventures, bah, j'ai toujours des doutes, des questions, je me renseigne sur plein de trucs. Et puis finalement, quand on part, tout se simplifie. Ouais, on se rend compte que finalement, le truc qui nous faisait un peu peur, bah, finalement, ça se passe bien, quoi. La plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe.
Et des prépas, alors vous aviez préparé matériel, itinéraire, regardé un petit peu pour vos billets d'avion, mais ça c'était plus tard. Un peu de prépa physique peut-être, un peu,
eh ben, je sais pas. Pas tant que ça, pas parce qu'on ça. S'est dit, bon, ben, on part pour 2 ans, de toute façon, on aura
ça
le temps de se préparer, quoi. On n'était pas pressé quand on partait, donc on s'est dit, ben, les premiers jours, les premières semaines, on verra ce qu'on fait en distance, mais on fera ce qu'on peut, et puis on verra bien. Ma femme est pas particulièrement une grande sportive, moi un peu plus, mais elle aime bien le vélo, elle aime bien l'idée du vélo, de se déplacer à vélo, mais elle fait pas beaucoup de sport dans la vie quotidienne. Et donc on a commencé, alors pas si doucement que ça, parce qu'on avait un peu l'euphorie du départ. Donc finalement on a tout de suite fait des étapes assez longues, mais on était un peu crevés au début parce que on n'était pas bien entraînés. Et puis au bout de 3 semaines de traversée de la France, bah là ça y est, on sentait qu'on était
dans le rythme.
Plutôt bien dans le rythme.
Tu disais qu'en vélo l'altiplano aussi t'avais beaucoup marqué. C'était pas trop dur avec l'altitude, hein, la pédalée là, vous l'avez pas trop senti passer?
Alors si, on l'a senti passer, d'autant plus que j'avais chopé la typhoïde juste avant.
Quelle bonne idée.
Avant de monter à Nazca. Donc là, il y a eu le début des Andes était compliqué. On a dû attendre un petit peu à cause de cette typhoïde. Après, on est monté. Donc c'est en fait la montée sur les Andes qui est difficile parce que ça commence par... on part à 600 mètres d'altitude, on arrive à 4002. Donc ça, on a mis 3 jours pour le faire. Même s'il n'y a pas beaucoup de kilomètres. Et puis après, il y a plein de vallées qui montent et qui descendent avant d'arriver sur l'altiplano. Et puis, donc là, on a eu plusieurs épisodes de grosses fatigues avec des rechutes, avec de la typhoïde, etc. Mais une fois ça passé sur l'altiplano, il s'est passé quelques semaines, en fait, avec tout ça. Et notre corps était bien habitué. Et l'altiplano est vraiment... c'est pas tout plat, mais c'est quand même assez plat. Et donc, on était à 4000, mais on était habitué, en fait, au bout de quelques semaines. Et à la Paz, on s'est arrêté aussi, parce que ma femme a eu aussi des soucis de santé à ce moment-là. Donc, à un moment donné, il y a un médecin qui nous a dit, non, mais en fait, il faut vous poser longtemps, quoi. Il faut que votre corps reprenne des forces. Donc, arrêtez-vous 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, mais arrêtez-vous, quoi. Donc là, on est resté 3 semaines, je crois, à la Paz. On en a profité pour... aider une association caritative belge, justement, qui s'occupait des enfants des quartiers pauvres des Hauts de la Paz, pour éviter qu'ils traînent dans la rue. Ils proposaient des animations, des activités, etc. Donc on a été faire des choses avec eux pendant 2-3 semaines. Et voilà, je me souviens jouer au foot sur les hauteurs de la Paz à 4002 ou 4003 et avoir l'impression de jouer au foot comme si j'étais au bord de la mer, quoi. Parce que mon corps était habitué depuis quelques semaines. Mais c'est des décors, l'altiplano, c'est des décors vraiment grandioses au niveau paysage aussi. Parce qu'il y a des montagnes autour et c'est vraiment, vraiment un des endroits où les paysages étaient les plus beaux dans notre tour du monde. Quoi.
Ah oui, ça je veux bien croire. Ok, donc La Paz, ça a fait 3 semaines alors, hein, c'est ça que tu me disais?
Oui, c'est ça.
3 semaines. Et là, après, vous avez continué vers quoi?
Alors après, on a continué sur la partie sud de l'Altiplano, donc on s'est dirigé vers la Bolivie. Mmh. Et en Bolivie, on voulait traverser le Salar de Uyuni, donc c'est un grand lac de sel
Salar
asséché.
Le fameux Salar de Uyuni, oui, on en a déjà entendu parler souvent dans le podcast, mais c'est parce qu'il vaut la peine.
Beaucoup de voyageurs à vélo l'empruntent, mais c'est un endroit vraiment de dingue. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'on avait quelques jours de piste à faire pour aller au nord de ce salar. Et on arrive dans un petit village vraiment paumé. Et là, on voit deux vélos chargés et un petit drapeau français dessus. Donc, je vois deux vélos chargés. Je dis à Élise, oh, il y a des vélos chargés. Et puis, deux secondes après, je dis, oh, mais il y a un drapeau français. Et donc, bref, on va voir, on voit les gens à qui appartenait ces vélos. Donc c'était des voyageurs comme nous qui étaient pour un an en Amérique du Sud. Et là le contact passe, mais alors direct quoi. Nous on appelle ça le coup de foudre amical quoi. Mm-hmm. On discute, on se dit bon bah on se prend un petit boui-boui, un petit hôtel dans le village pour la nuit ensemble. On passe la soirée ensemble, ok. On se retrouve dans la même chambre parce que il n'y avait pas d'autres possibilités dans l'hôtel. On passe la soirée ensemble et vraiment comme si on les connaissait depuis 20 ans quoi. Un truc de dingue. Et donc eux comptaient aller sur le Salar de Uyuni, on avait à peu près la même direction pour les jours qui suivaient.
Et c'était qui et ces gens qu'on les salue au passage, qui c'est
C'était Lionel et Laurence, qui font partie de nos meilleurs amis maintenant en fait. Et eux, ils partaient pour un an en Amérique pour aller enquêter sur le commerce équitable.
Ah ouais.
Et donc ils s'arrêtaient dans des fermes et des endroits où il y avait des producteurs locaux et ils regardaient si c'était réellement intéressant pour ces gens-là ou pas. Mmh, mmh. Et la conclusion était plutôt positive d'ailleurs.
Ah, chouette. Et, toujours bon à savoir.
Et donc voilà. Ouais. Donc on est parti faire cette traversée du Salar avec eux. C'était pas mal parce que d'être à deux couples, c'était pas mal parce que c'est un grand espace sauvage quand même. Au milieu, il y a une île avec des cactus où les voyageurs à vélo peuvent faire un stop. C'est pas un hôtel, c'est juste des petites chambres dans une maison. Mais c'est pas autorisé, enfin en tout cas à l'époque, c'était pas autorisé à tous les touristes. C'était que les gens à pied ou à vélo qui sont obligés de faire un stop parce que c'est trop long sinon de traverser le Salar dans une journée. Et puis voilà, on s'est arrêté là. Et puis après, on a bivouaqué sur le Salar la nuit suivante. Donc là, pareil, un bivouac complètement fou, quoi. Le sel est tout dur, c'est tout blanc. On a l'impression de rouler sur la banquise. Donc la nuit, on se met avec nos tentes et on essaye de se mettre un peu en décalé du pas, parce qu'il y a quand même quelques voitures qui passent à travers. Donc la nuit, il faut quand même pas être sur l'endroit où il y a le plus de passages, même s'il n'y a pas beaucoup de passages, il y a quand même quelques voitures. Et puis du coup, on a allumé nos feux de vélo toute la nuit, on les a mis un peu dans tous les sens pour nous signaler en fait, parce que finalement la nuit, voilà, faudrait avoir un coup de malchance, mais...
Vous n'avez pas des tentes blanches, enfin quand même
Ouais, c'est ça. Et donc voilà, une traversée de ce salar vraiment de dingue, et en fait on a passé 15 jours avec eux, parce qu'on avait le même itinéraire et que on n'arrivait pas forcément à se quitter, parce que tout se passait bien, on avait le même rythme... Voilà, c'était une rencontre, pas des gens du coin, mais une rencontre vraiment très forte.
Ouais.
On a été obligés de se séparer à la fin, en fait, exprès, parce que eux, c'était leur fin de voyage, donc ils avaient aussi envie de le finir seuls.
Bah oui,
mais on a dû faire l'effort, en fait, pour se séparer.
Et ça n'a pas très bien réussi, puisque vous êtes retrouvés en France, alors.
Ouais.
Ah bah c'est bien, super.
On est reparti à vélo avec eux l'année dernière, d'ailleurs, avec tous les enfants, etc.
Ah, c'est génial, ouais. Ça. Oh, ouais. C'est top. Tu me disais qu'en Mongolie aussi, vous arrivez de bien belles choses.
Ouais, on a vraiment aimé la Mongolie parce que y a pas de terrain privé déjà en Mongolie. La terre appartient à tout le monde. Ils se mettent. Ils se mettent en dehors des villes, ils se mettent encore avec leur tente, leur yourte, pour l'été.
Okay.
Il y a une partie des personnes qui sont nomades toute l'année. Il y a une autre partie des personnes qui sont nomades plutôt l'été et puis qui reviennent à la ville l'hiver.
Ah, donc c'est encore bien vivant. Ah ouais, ok.
Et alors ce qui était vraiment marrant par rapport à tous les autres pays, c'est qu'on a eu l'impression que notre voyage leur paraissait normal. Et en tout cas, ils ne nous posaient pas de questions comme dans les autres pays. Pourquoi vous faites ça? D'où vous venez? Voilà, on avait l'impression que c'était un mode de vie. Voilà, le mode de vie, je bouge, je suis nomade. Mm-hmm. On avait l'impression que voilà, ça leur paraissait complètement normal. Mmh. Et donc on demandait si on pouvait mettre notre tente à côté des yourtes. Donc on n'a jamais dormi dans une yourte finalement, parce que nous on avait la nôtre. Mais on a passé pas mal de moments dans différents campements avec des gens, à rester deux nuits ou trois nuits, et à voir vraiment comment ils vivaient et à participer en fait à leur vie, voilà, que ce soit gérer le troupeau, traire les vaches.
Vous n'avez pas été tenté de faire un peu de cheval là-bas? Ils ont quand même des chevaux aussi déjà en Mongolie, ou c'est déjà
Des chevaux. Alors, on est monté sur les chevaux, mais alors là-bas les chevaux, c'est ils montent à cru, c'est des chevaux bien bien nerveux. Donc voilà, ils nous ont fait faire quelques pas avec des chevaux, mais on n'a pas fait de vraies balades à cheval. Et je pense que enfin, moi j'ai pas de compétences en équitation. Je pense faut s'y connaître un petit peu.
Les petits chevaux nerveux de Gengis Khan. Ouais.
Et donc avec une des familles là, on est resté peut-être 2 jours chez eux. Et en fait, c'était la fin de saison, c'était fin août je pense. Ils déménageaient pour rentrer sur la capitale à Ulaanbaatar, qui était pas loin, qui était à une centaine de kilomètres, je crois. Et en fait, ils nous ont proposé de faire le déménagement avec nous, parce que nous, on allait à Ulaanbaatar. Et donc, du coup, on a dit oui, parce qu'on a trouvé ça génial de voir comment ça se passait. Donc, le matin, à 6h du matin, le démontage des deux yourtes commençait. Et puis, il y a quand même tout un barda. Hein, donc, il y avait un camion qui arrive. Enfin, un camion, ouais, c'est un gros camion qui arrive. Il charge le camion. Ça dure pas la journée, mais ça dure jusqu'en début d'après-midi. Et puis après, tout le monde monte par-dessus tout le bazar qu'il y a dans la benne du camion. Et puis, route vers la capitale. Et puis, sur la route, il y a plusieurs postes de contrôle, de police, etc. Donc, il fallait se cacher derrière, sous les couvertures, parce qu'on n'avait pas forcément le droit d'être dans la benne du camion. On était je ne sais pas combien là-dedans. Et donc, on arrive dans la banlieue de Ulaanbaatar, où il y a des espèces de terrains... Alors, c'est pas forcément très très joli, mais c'est des terrains assez secs, et puis il y a des palissades pour un peu les séparer. Et là, c'est remontage de la yourte. Donc finalement, ils vivaient de la même façon l'hiver, mais dans la banlieue de la capitale, quoi.
Ah ouais. Mm. Ah, je croyais qu'ils retrouvaient peut-être un petit appartement ou quoi. Non, c'est toujours bien dans la yourte.
Non,
quoi.
Là, c'était c'était dans la yourte. Ouais.
Ah, ouais.
Bon, après, à Ulaanbaatar, il y a des choses qui ont dû. Enfin, je sais que ça a beaucoup évolué hein, depuis, mais. Mm-hmm.
Waouh, super intéressant. Mais, comme. Et là, ça va, il n'y a pas de vodka là-bas. C'est du thé, c'est des quoi?
Au moins, il y en a un petit peu, parce qu'ils ont quand même cette influence russe, mais il y en a quand même beaucoup moins. Ça reste, le verre de l'amitié, quoi.
Oui. c'est pas les 5 bouteilles de l'amitié, ça va.
Voilà, c'est ça.
Et alors, revenir, ça s'est passé comment? Ça a été le retour, hein, après autant de liberté?
Eh ben, ça a été super.
Oui.
Ça a été super. On l'appréhendait, comme tous les gens, je crois, qui partent longtemps.
Oui, oui.
Mais le retour pour nous, c'est très très bien passé. Alors, je l'explique d'une part parce que on s'était fixé les 2 ans et on s'était fixé cet itinéraire qu'on a fait de manière globale. Hein. C'était pas très précis, mais les grandes étapes, c'était à peu près ça qu'on avait prévu. Et donc, quand on est revenu en France, on avait le sentiment d'accomplissement, d'avoir atteint notre objectif, d'avoir fait ce qu'on voulait. Et puis, au bout de 2 ans, on avait aussi l'envie de... Enfin, moi, je me souviens dans ma tête, je me disais, c'est génial ce qu'on a fait, mais il n'y a pas que le vélo dans la vie, quoi. Mm-hmm. Je me disais ça.
Ouais, ouais.
J'avais envie de retravailler, j'avais envie de faire autre chose, de passer un petit peu à autre chose, de changer un peu. Donc voilà, content de rentrer, finalement. Et puis on
c'est vrai
a
que tu
retravaillé...
n'étais pas revenu dans un travail de t'es pas revenu dans un bureau quoi non plus.
Oui.
Ça aide.
Et... ouais c'est ça. En fait on a retravaillé très rapidement. Trois semaines après être rentré, on a tous les deux commencé à retravailler. Et moi je suis parti justement travailler sur le BLM. Donc,
y a pire.
Un boulot super et non le retour a vraiment été. Voilà, très bien. Après, évidemment, on met du temps quand même un peu à atterrir. On se sent un peu décalé pendant un certain temps, mais pas de coup de blues, quoi.
Ouais. Tu en gardes quoi? Tu penses que ça t'a changé? Ça t'a apporté quoi? C'est quoi la grande... les grands cadeaux, les grandes leçons de ce genre d'aventure.
Ce que ça m'a apporté, c'est de relativiser énormément sur tout ce qui nous arrive dans la vie, relativiser sur la chance énorme qu'on a dans nos pays d'avoir tout ce confort, toute cette richesse. Voilà, je dis pas que tout le monde est parfaitement heureux en Europe, mais globalement, on a voilà un système éducatif, un système de santé. Enfin, je pense que je trouve ça dommage que beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ça. Mmh. Alors, c'est vrai que c'est pas parce que tel ou tel pays a des difficultés qu'il faudrait qu'on en ait aussi, mais moi, je relativisais déjà un petit peu là-dessus, mais en fait, j'ai l'impression que ce voyage, il a renforcé toutes les croyances que j'avais avant, mais puissance 10, quoi. Et c'est vrai que j'ai un peu du mal avec ce côté, entre guillemets, du râleur français. Voilà, j'ai un peu du mal avec ça, et j'avais beaucoup de mal avec ça quand je suis rentré après le voyage, et j'ai toujours un peu de mal avec ça, parce que je trouve que les gens se rendent pas compte de... Voilà, de la chance qu'on a, quoi, tout simplement. Quoi.
Oui, oui, il faut aller dans des pays dictatoriaux pour voir à quel point on a la chance de vivre en démocratie, à quel point on a de la chance de pouvoir voter. Il faut avoir été se casser le dos dans des 4x4 sur les pistes en Afrique pour se rendre compte ici que oui, on a peut-être quelques nids de poules, mais franchement, on a du bol. Puis pas devoir aller chercher l'eau à 5 km comme dans certains pays. Oui, c'est vrai que voyager, ça fait revenir. Je trouve que ouais, on revient en général en ayant les yeux plus ouverts, quoi. Ouais. C'est ça qui est intéressant dans un voyage. Ouais.
Et puis l'autre chose, c'est que ça m'a montré qu'un objectif, un grand objectif qui paraît difficile, ben, on est capable de le faire, comme je disais tout à l'heure, en faisant bout par bout, en faisant morceau par morceau, même quelque chose qui nous paraît impressionnant, ben, on est capable, on a des capacités qu'on mesure pas, quoi.
Tout à fait. C'est pour ça que je pilonne à chaque début de podcast. Si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Parce que je suis persuadée qu'on peut beaucoup. Et à propos, tu as fait une très belle aventure aussi en kayak avec quelqu'un qui pourtant n'avait pas toutes les chances des personnes complètement valides. Et lui aussi a pu le faire. Donc ça, c'est une chouette histoire aussi. Tu peux nous la raconter?
Ouais, mais on a organisé une expédition en kayak au Groenland avec un copain, Nicolas, que j'ai rencontré sur le Belém, qui était marin aussi. Et Nicolas, il a une spondylarthrite, donc c'est une maladie inflammatoire, inflammation des articulations. C'est par crise, il y a des jours ça va, des jours ça va pas. Voilà, il peut pas faire de randonnée, par exemple, ça lui fait trop mal aux genoux, etc. Le kayak, ça passe à peu près, c'est quelqu'un qui en fait depuis longtemps. Ça passe à peu près, mais il faut pas non plus qu'il force trop, et puis il y a des fois ça passe, des fois ça passe pas terrible. Mais on a toujours eu cette envie d'organiser une expédition dans la glace. On a tous les deux professionnellement travaillé dans des zones polaires, moi en Antarctique sur l'Astrolabe, et lui sur le Tara, il a fait la fameuse dérive antarctique du Tara, il était chef mécanicien à bord. Et donc on avait un peu cette connaissance de la glace et on voulait retourner goûter à ça, mais en kayak, de manière un peu plus simple, un peu plus proche encore plus proche des éléments. Et on s'est dit, bon ben voilà, moi j'avais un kayak double à l'époque, et puis on est parti faire un week-end en Bretagne, et puis on en a reparlé, et puis on s'est dit, bon allez, on y va, on lance le truc, quoi. Toi t'as ta maladie, mais on peut partir sur un kayak double, ce qui permet de éventuellement pallier à tes problèmes physiques. Et donc on a lancé ça tous les deux, on aurait bien aimé avoir un troisième équipier, mais on n'en trouvait pas forcément. Et puis il y a un troisième équipier qui est arrivé un peu par hasard, encore une belle rencontre, un soir de bivouac en kayak en Bretagne. Et puis 3 mois après, qui nous dit « Ouais, mais votre plan là, moi je connais pas le kayak, mais j'ai trop envie de faire ça avec vous. » Et donc comme c'était un gars plutôt débrouillard, on lui a dit « Bah ouais, écoute, il n'y a pas de raison quoi, le kayak c'est... Si t'es avec nous, nous on sait faire, après faut que tu payes, et puis voilà, t'es sportif, y a pas de souci. » Donc on est parti à trois, on a fait une boucle de 400 km dans la baie de Disco au Groenland, côte ouest. On a adapté évidemment les distances et les étapes en fonction de la maladie de Nicolas. Tout s'est bien passé, il a eu quelques douleurs, hein, classiques, il le savait, mais ça s'est plutôt bien passé. Et puis du coup, on a profité de ce périple pour parler de cette maladie-là et rassembler un peu de fonds. En fait, on a fait une cagnotte participative. Il y a la moitié qui nous a servi à acheter du matériel, notamment de sécurité, et du matériel pour filmer, un drone par exemple, et une caméra, etc. Et puis l'autre moitié des sous qu'on a récoltés a été reversée à la Fondation nationale pour cette maladie.
Quoi. Ouais. Ah, vachement chouette. Et donc vous bivouaquiez dehors, là, il faisait pas bien,
ouais,
bien chaud, là.
Là, on bivouaquait, bah, c'était le Groenland en été, c'est entre 0 et 10 degrés, donc 5-6 degrés en moyenne. Nous, on a eu pas mal d'humidité, donc c'était assez frais.
Ouais.
Et donc on bivouaquait sur les berges, hein. Le Groenland, c'est une grosse calotte glaciaire, mais sur les berges en été, c'est découvert de glace. Donc c'est de la toundra, hein. C'est de la mousse toute rase. Et donc on bivouaquait, ouais, chaque soir sur la côte, sur les îles. Et c'est une zone où il y a des gros glaciers de la calotte glaciaire qui se déversent dans la mer. Donc il y a des gros icebergs. Il y a après des gros icebergs qui se cassent en petits morceaux, donc ça fait plein de petits bouts de glace partout. Donc il y a des zones qui peuvent être un peu compliquées pour naviguer en kayak. Et puis il y a des zones où il y a des icebergs qui font... il y a des gros tabulaires, on appelle ça des tabulaires, ça fait... 100 mètres de haut, 500 mètres, 600 mètres de long, enfin, c'est des trucs énormes, quoi.
Ouais,
donc
ouais.
Là, on s'approche pas trop, quoi.
Ah ben non, surtout au kayak, c'est un petit peu petit, quand même. Ouais, c'est une belle histoire aussi, ça. Et alors, il était ravi, lui, au retour, hein, d'avoir pu vivre ça.
Ouais, il était ravi, je crois que c'est un de ses plus beaux voyages, je pense.
Cool.
Et ouais, vraiment, c'était une très très belle réussite. Et comme quoi, on a bien fait de se lancer, malgré un peu les doutes par rapport à ça, par rapport à sa maladie. Voilà, ça c'est. Je pense que mentalement aussi, il était pareil, tellement motivé, tellement content de faire ça, que je suis sûr que le corps fait ce qu'il faut pour que ça passe, quoi.
Ah, le mental est bien, bien plus fort que ce qu'on pense. C'est même incroyable. Alors, maître campeur, parce que c'est aussi un de tes surnoms apparemment, puisque tu as commencé à aimer le bivouac, etc. très jeune. Parle-moi un peu de ton lien avec la nature, justement. Parce que tout ça, c'est outdoor à 100%.
Bah, mon lien avec la nature, moi j'aime bien me retrouver comme les gens vivaient il y a très 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 longtemps. C'est-à-dire que j'aime bien les endroits où il n'y a pas trop de traces, pas forcément des traces humaines, mais voilà, j'aime bien m'immerger dans la nature et de voir des paysages comme c'était avant, il y a très longtemps, quoi.
Ouais.
Et puis je trouve que quand on est dans la nature, on se sent vivant parce qu'il faut faire attention, il faut faire attention à la météo, il faut faire attention à l'endroit où on va aller dormir le soir. Il faut réfléchir à où on va aller, est-ce qu'on va trouver un bon endroit ou pas, est-ce que... Voilà, et puis après, c'est l'émerveillement de voir des choses belles, tout simplement, quoi, que ce soit les paysages, que ce soit les animaux, la flore, enfin... Le kayak et la randonnée à pied en montagne, par exemple, c'est des choses très contemplatives, quoi, finalement. Et j'aime bien ce côté contemplatif et réflexion, réflexion... Je trouve que quand on marche ou quand on fait du kayak pendant plusieurs jours, au bout d'un moment, on rentre dans des réflexions qu'on n'a pas forcément habituellement. Ça fait réfléchir, ça repose un peu de la vie quotidienne, un petit peu speed, quoi.
Ouais. Ah oui, tout à fait, tu rentres en mode slow et ouais, tu as le temps de penser. Il n'y a pas toujours des sollicitations et donc tu peux aller bien plus profond que d'habitude dans tes réflexions, tout simplement. Ouais, c'est génial. Parle-moi des ingrédients pour toi, pour réussir un grand projet, toi qui en as déjà réalisé plusieurs.
Déjà, il faut pas avoir peur d'un rêve qui nous paraît trop grand, déjà. Je sais plus qui dit que si ton rêve ne te fait pas peur, il n'est pas assez grand. Je trouve ça assez vrai.
Oui, je l'ai déjà lu aussi, je sais plus qui c'est, ouais.
Ouais. Et en même temps, il faut savoir commencer petit. C'est-à-dire qu'on peut avoir un objectif grand, mais on peut passer par des étapes. Je sais pas moi, un tour du monde à vélo par exemple, ou un voyage en kayak au Groenland. Bah, avant de faire ça, on peut commencer par une semaine ou deux de voyage à vélo en France, et puis un peu après à l'étranger. Enfin voilà, d'y aller par étapes. Et de se renseigner, de se préparer, de se former éventuellement s'il y a besoin. La préparation, elle est importante, je trouve, pour que le voyage soit réussi. Parce que, il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser à l'avance. Et si on regarde les grands aventuriers qui font des trucs de dingue, Bah, ils partent pas comme ça à
l'arrache.
C'est
des bons préparateurs.
C'est hyper, c'est des très 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 bons préparateurs. Tout est calculé, tout est pensé. Le pire, on pense toujours au pire pour savoir faire face si le pire arrive. Voilà, faut pas croire que les gens qui partent dans des expéditions extrêmes partent comme ça en disant je suis trop fort, tout va bien se passer. C'est très 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 calculé. Et quel que soit le niveau de l'engagement, de l'aventure ou du voyage, comme on l'appelle comme on veut, bah, ça demande de la préparation pour que ça se passe bien d'une part et qu'on en profite correctement d'autre part, quoi.
Et toi, tu es assez obsessionnel par la préparation, c'est génial, mais je veux dire dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que tu as beaucoup appris et tu en partages beaucoup. Donc c'est vrai que j'ai été m'amuser sur ton blog, là, à regarder un peu, et sur ta chaîne YouTube, il y a des vidéos aussi où tu expliques énormément de choses sur le matériel, sur des conseils pour des itinéraires, c'est super tous ces partages. Et tu as même sur ton blog, bon, des formations, les guides du matos, un guide pour bien choisir son aventure aussi, c'est chouette, je l'ai lu hier, je l'ai téléchargé, je l'ai lu. C'est bien fait sur les questions à se poser pour dire tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'effectivement peut faire rêver et puis se rendre compte un peu de la réalité aussi des choix derrière. Donc c'est assez appréciable, j'allais dire, comme base, ouais.
Ouais.
Et donc ça, c'est une grosse envie chez toi, hein, ce partage.
Ouais, bah, quand j'ai créé Besoin d'aventure, j'ai créé d'abord un blog et j'avais cette envie de partager. Je ne savais pas exactement ce que j'allais faire avec ça, mais j'avais cette envie de partager sur le voyage nature, que ce soit à pied, à vélo, en kayak. Et puis en fait, j'ai commencé à faire des articles, des vidéos pour aider les gens à se préparer, à expliquer des choses là-dessus. Puis en fait, depuis 2-3 ans, je propose maintenant des formations, principalement sur la préparation. J'ai une formation, par exemple, Objectif Rando, sur la préparation de randonnée. Ça permet aux gens de préparer une randonnée vraiment de A à Z,
Ouais, j'ai vu, t'avais des trucs comment
pour être...
calculer le temps que ça va prendre d'aller d'un point A à un point B. T'as
Ouais.
tout un calcul que t'as élaboré là, oui, c'était intéressant.
Ouais. Et donc, bah,
Petit
l'idée,
exemple.
c'est que les gens choisissent un projet, un itinéraire en début de formation. Ça, c'est un truc que je les aide à choisir en fonction de leurs envies et leurs capacités physiques, notamment, et leur expérience. Et puis après, tout au long de la formation, ils ont des actions à chaque vidéo à faire pour préparer leur projet avec la formation, grâce à la formation. Donc c'est d'abord l'itinéraire, puis après on apprend à utiliser tous les outils GPS, applications GPS, les cartes, les fichiers GPX, etc. Et puis après c'est une partie plus détaillée de la préparation avec un plan de route. C'est quoi un plan de route? Comment on fait un plan de route? Qu'est-ce qu'on met dedans? Le temps, les dénivelés, les passages clés, les échappatoires si on a un problème. Les hébergements ou les coins de bivouac éventuels, on se prépare tout un truc. Alors ça peut être fait plus ou moins de manière plus ou moins précise, hein, mais la philosophie, elle est toujours la même, quoi. C'est de prévoir un minimum de choses. Et donc voilà, l'idée, c'est qu'en fin de formation, ils ont un projet qui est bien ficelé, ils n'ont plus qu'à faire leur sac, ils ont une liste de matos aussi, et ils sont prêts à partir pour leur aventure, quoi.
Ouais, c'est chouette. Quelle est l'erreur la plus fréquente que tu vois dans les aspirants randonneurs, des choses que tu...
Bah, les deux erreurs les plus fréquentes en randonnée à pied, c'est le poids du sac trop lourd et ne pas prendre de bâton. Alors les bâtons, quand je dis pas prendre de bâton, je parle surtout de la montagne. Si le terrain est plat, ça se discute beaucoup plus. Mais en montagne, les bâtons sont un gain énorme soit de vitesse, soit de fatigue. Ça dépend. Mais que ce soit en montée ou en descente, en fait, on va récupérer 30% de l'énergie et 70% dans les jambes, du coup. Donc ça allège énormément les jambes, les genoux, les cuisses. Donc le bâton, c'est quelque chose de primordial, surtout quand on est chargé. Et puis ouais, après, le poids du sac à dos, c'est vraiment la guerre du poids en randonnée. Faut alléger, pas jusqu'à un point extrême non plus. Il y a des gens qui, on appelle ça les mules, les marcheurs ultra légers. Il y en a qui partent un peu dans l'extrême et du coup, je trouve qu'ils se mettent un peu en danger niveau sécurité parce qu'ils n'ont pas assez de matos, voilà, notamment pas assez de vêtements chauds par exemple, tout simplement. Donc il faut trouver le juste milieu, mais il faut réussir à pas partir avec un sac à dos de 20 kilos, quoi, parce que sinon c'est un peu un enfer, quoi.
Le poids idéal, d'après toi?
Le poids idéal, ça dépend un peu de la corpulence
Oui,
de
c'est
la
ça.
personne,
Pour moi,
c'est
c'est 5, hein. 5
10.
kilos.
Non, on dit que c'est l'idéal, c'est 15% du 15% du poids et pas dépasser 20% du poids. Donc voilà, souvent on arrive assez facilement à partir avec des sacs à dos de 12 kilos tout compris quoi.
Ouais.
Après, ça dépend du nombre de jours de nourriture qu'on doit
Oui,
mettre,
si tu vas dans
etc.
le
Mais
grand froid, si tu vas, oui, bien
voilà,
sûr,
12
quoi.
kilos, c'est un truc qui est. C'est une valeur peut-être à retenir, quoi.
Ouais, d'accord. Et pour affiner, ben voilà, t'as tous les conseils sur tes chaînes et dans tes formations éventuellement. Est-ce qu'il y a une citation qui te parle, que tu te dis souvent
Ouais, j'ai deux citations que j'ai souvent en tête. La première, c'est de Einstein, qui dit La vie, c'est comme la bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Et je trouve que c'est vraiment, voilà, c'est une super métaphore du voyage à vélo parce qu'effectivement, faut toujours avoir des projets, faut toujours avancer, quoi, pour être bien dans sa tête, pour avoir des envies, pour être positif. Et donc, bah, finalement, c'est comme le vélo. Sur place, on tombe. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois la vie. Et puis l'autre, je crois que c'est, il me semble que c'est Saint-Exupéry qui dit fait que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve. Alors c'est une phrase un peu à rallonge, mais voilà, j'ai cette
Elle est très belle.
voilà, moi je c'est un peu mon credo et quand j'ai des projets et que j'hésite et à le faire, etc. Bah, je me remémore ça, je me dis bah voilà, le rêve doit être au-dessus de la vie quotidienne, quoi.
Ouais. Oh, des belles citations. Super, merci du partage. Dans ton parcours d'aventurier, quelles ont été tes plus grandes galères et qu'est-ce que ça t'a appris?
Je crois que c'est le d'avoir été assez souvent malade quand j'ai fait mon tour du monde à vélo, et notamment une typhoïde en Amérique du Sud,
Ouais, celle-là,
dont j'ai déjà parlé. Et cette typhoïde, elle m'a du coup conduit à l'hôpital, avec voilà, voilà, à l'hôpital. Et l'hôpital au Pérou, à Nazca, c'était vraiment, vraiment, vraiment pas drôle. C'est-à-dire que j'étais dans une pièce avec une autre personne mourante.
ouais.
Il fallait, heureusement que j'étais pas tout seul parce qu'il fallait aller à la pharmacie d'à côté pour acheter absolument tout. En fait, ils avaient rien dans l'hôpital, c'était un bâtiment et il y avait rien. Donc le moindre truc, fallait aller l'acheter à la pharmacie, puis ensuite donner au médecin, puis ensuite machin. Et donc j'ai passé, je sais plus, 3-4 jours dans cet hôpital. Jour et nuit, avec des cafards partout, avec et bah là encore une fois, ça m'a appris que quelle chance on a quoi,
On n'a pas
quelle
à se
chance on
plaindre
a quoi.
ici. Ouais,
Là,
ouais.
j'ai vraiment vu le voilà, quand on voyage, que ce soit à vélo ou d'une autre façon, on voit les gens, on voit comment ils vivent, mais on voit pas forcément la misère de l'intérieur.
Ce côté-là.
Là je l'ai vu quoi. Avec en plus des médecins qui étaient assez arrogants en nous montrant que voilà, c'était ça le Pérou. Ils avaient un discours assez particulier par rapport à nous. Et voilà, encore une fois, ça c'était pas un moment agréable, mais c'est clair que c'est quelque chose qui m'a marqué et j'ai beaucoup appris à relativiser
Ouais.
par rapport à tout ça, quoi.
D'accord. Et le succès dont tu es le plus fier dans toutes tes aventures?
Bah, cette expédition au Groenland en kayak. A été déclencheur sur pas mal de choses, sur les capacités que j'avais à faire des choses comme ça. L'hiver suivant, je suis parti faire la traversée du Vercors à ski, en hiver. Et là, bah, c'est pareil, c'est quelque chose que je pouvais un petit peu appréhender au début, parce que je connaissais pas forcément voilà, la montagne en hiver. Le Vercors, les hauts plateaux du Vercors, c'est une zone bien naturelle, sans trop de. Enfin, sans rien, il y a juste des cabanes ouvertes, et puis après, il y a des falaises tout autour, donc il n'y a pas beaucoup d'accès, etc. J'ai eu l'impression de passer un certain niveau de possibilité avec cette expédition Groenland, puis ce Vercors en hiver. Et maintenant, bah, du coup, j'ai plein d'envies d'aventures comme ça, qui sont pas des aventures extrêmes, mais qui demandent quand même un peu plus d'engagement qu'une simple randonnée estivale, par exemple, quoi.
Oui,
Et
bien
ouais,
sûr.
du coup, je sens avoir passé un petit cap là-dessus et avoir envie de faire d'autres aventures comme ça, quoi.
Ah, top. Est-ce qu'il y a donc une autre question que tu aurais voulu que je te pose et que je t'ai pas posée?
Ça peut être intéressant de parler de 1% pour la planète, parce que je vois que, enfin, toi, tu es dans une démarche écologique et donc moi, sur Besoin d'aventure, j'ai aussi cette démarche-là. Bah, tu connais, j'imagine, 1% pour la planète.
Oui, un pour sur la planète, bien sûr. Ah, génial. Et donc, si on veut te retrouver, donc ton blog s'appelle Besoin d'aventure, super facile à trouver. Oui. Ta chaîne YouTube, elle s'appelle Besoin d'aventure.
Besoin d'aventure aussi.
Donc voilà, tu es sur les réseaux sociaux un petit peu.
Les réseaux sociaux aussi, Facebook, Instagram, TikTok même, depuis peu.
Ça, j'ai pas été regardé. Et donc, toujours Besoin d'aventure et on te trouve partout.
Et toujours Besoin d'aventure.
Eh ben, il n'y a rien de plus simple. Bah écoute, un grand, grand merci pour ton temps ce matin.
Merci à toi aussi, c'était un plaisir de partager ça.
Ah bah j'ai pris beaucoup de plaisir à entendre tes aventures également.
Et bah merci pour ce très beau podcast.
Merci.
Plutôt sympa comme parcours, non ? Je ne peux que te recommander d'aller faire un tour sur le blog Besoin d'aventure, dont je te mets les liens comme d'habitude sur la page web de Storylific, lien direct dans les notes de l'épisode. Tu trouveras sur le blog, entre autres, ce petit guide gratuit sur comment choisir son aventure, dont j'ai parlé dans l'épisode, et que j'ai trouvé bien sympa. Si tu te demandes quelle aventure te conviendrait, eh bien, suis le guide. Et comme sa chaîne YouTube est truffée de partages, d'astuces et de conseils en tout genre, je t'ai aussi mis le lien direct vers sa chaîne. Si tu veux créer ta propre aventure, un conseil qui revient souvent, c'est de parler avec des gens qui ont déjà vécu ce que tu veux entreprendre. Alors n'hésite pas à explorer aussi les autres épisodes sur Storylific, puisque mon but est de te mettre entre les oreilles un maximum d'expériences outdoor en te partageant les vécus d'une grande variété d'invités et leurs meilleures astuces. Comme toujours, je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple qui fait un monde de différence pour le projet. Storylific soutient la reforestation. Donc si l'épisode t'a plu, partage-le sur tes réseaux ou parle-en autour de toi, cela aidera grandement à transformer ce projet en forêt. Merci enfin à mon partenaire AS Adventure pour le soutien apporté à cet épisode. À bientôt !